si je devais donner un titre, je donnerais celui-ci. Écoute, Dieu parle, et je pourrais même rajouter Dieu te parle. C'est ça. Je vais juste rappeler quelques versets de la Bible. Alors ceux-ci, je ne vais pas vous demander de les chercher particulièrement, mais juste écoutez, et ça va vous rappeler des choses si vous connaissez la Bible, et sinon vous allez découvrir eh bien, ce qui y est inscrit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ceux qui connaissent la Bible savent que c'est Jésus qui a dit ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et il a repris ça qui était dit dans l'Ancien Testament par un prophète. Un autre texte, dans Jérémie chapitre 22, verset 29, il est dit « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel ». Et s'il est dit trois fois « terre », c'est vraiment pour insister que toute la terre est concernée. Pas seulement les Français, pas seulement ceux d'un certain pays, pas seulement ceux qui sont des hommes ou des femmes, ou d'une certaine origine, ou avec un certain statut social, mais toute la terre, tous les hommes. Proverbe 13:1 dit « Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas les conseils. » J'ose croire que cet après-midi, il n'y aura aucun moqueur. Personne qui se moquera de la parole de Dieu, de la Bible. Peut-être que quelqu'un peut entendre ce message pour la première fois de sa vie, quelque chose qui concerne la Bible pour la première fois de sa vie, et il est venu se disant, « Mais tiens, est-ce que je vais découvrir quelque chose de bien ? Vous avez été invité peut-être par quelqu'un à entendre tout ça ?» Et j'aimerais nous rappeler que la Bible est un livre tellement sérieux qu'il nous faut y prêter attention. Il faut écouter ce que le Seigneur Dieu dit, lui qui veut être le Père de tous les hommes. Proverbe 23:19 dit « Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. » Proverbe 4:10 « Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. » Que des conseils, des encouragements pour tous les hommes à écouter la parole de l'Éternel, à s'approprier, à s'intéresser aux choses qui sont écrites dans la Bible. Il y a trois paroles que Dieu a dites dans la Bible que je voudrais nous rappeler cet après-midi et qui n'ont pas été écoutées par certains hommes. Le premier homme dont nous parle la Bible, le premier qui a été créé, il s'appelait Adam. C'est bien. Vous pouvez le dire, c'est bon. Adam. On lit ensemble dans Genèse au chapitre 2 et au verset 16. Prenez avec moi si vous avez une Bible, sinon je suis sûr qu'on pourra vous aider à en trouver une. Genèse chapitre 2 et verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et on voit dans ce texte, je m'arrête là, que Dieu donne une parole, un conseil, une consigne à l'homme qui est placé dans un jardin merveilleux. Si vous avez déjà probablement entendu parler de cela, Dieu a créé l'homme, il a créé Adam, ensuite il a créé la femme, il le place dans un jardin merveilleux où tout est beau, les fruits poussent, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts pour pouvoir se nourrir, se réjouir, se faire du bien, se rafraîchir peut-être s'il fait chaud avec un fruit bien juteux, tout ce qui est parfait, je suis sûr qu'il devait y avoir tout ce qu'il faut de mûr pour pouvoir manger toute l'année. Et voilà que Dieu dit, tu peux manger de tous les fruits des arbres qui sont là, seulement tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un seul arbre sur tous les autres arbres. C'était vraiment le meilleur endroit. Pourquoi Dieu a gardé un arbre ? Ben parce que sinon, il n'y aurait plus de libre arbitre. Pourquoi Dieu a gardé un arbre en disant, celui-là n'y touche pas ? Parce qu'il y aurait des conséquences graves pour ta vie. Parce que sinon, Dieu n'aurait pas laissé libre de choisir les êtres humains. Et c'est là une des preuves de l'amour de Dieu, c'est de laisser chaque être humain, chaque homme, chaque femme, libre de choisir de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Et il n'y avait qu'un arbre à l'époque. Ce n'est pas comme dans le monde où il y a beaucoup de choses mauvaises. Il y avait un arbre à ne pas toucher. Et voilà que Adam, ou plutôt Ève la première, peu importe mon débat, ce n'est pas l'homme ou la femme en premier, Ève va se faire séduire par le serpent. C'est bon, aidez-moi, merci. Le serpent est là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il séduit la femme. Alors il parle, ce serpent, et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ça, c'est le piège du diable. Est-ce que vraiment c'est sûr ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre ? Est-ce qu'il l'a vraiment dit ? Est-ce que tu ne te trompes pas dans tes souvenirs ? Ou est-ce qu'il ne l'a pas dit pour des mauvaises intentions ? Il va même prêter des intentions à Dieu, comme celle de ne pas vouloir qu'ils deviennent comme des dieux eux aussi. Et Ève va se laisser séduire. Il est écrit qu'elle vit que ce fruit était bon à manger. Comment elle peut deviner qu'il est bon juste en le voyant ? Le diable, il nous fait imaginer des choses, nous fait croire que ça va être bon, que ça va être agréable, que ça va nous faire nous épanouir. Et il nous pousse à manger des choses qui sont un poison pour notre vie. Et dès lors que Ève, la première, puis ensuite Adam, puisqu'elle lui en donne et il en mange aussi volontairement, lorsqu'ils en mangent, il est dit que toute l'innocence, la pureté qu'ils avaient est détruite. Et la mort commence à agir dans leur cœur. C'est comme cela que le péché est entré dans le monde et a commencé à corrompre le cœur humain. Une deuxième parole que l'on peut trouver cette fois-ci dans Matthieu chapitre 19 et verset 18, qui est tiré de l'Ancien Testament. Alors on va le prendre plutôt dans Exode chapitre 20 et verset 16. Exode 20, 16. Je ne vais pas être long cet après-midi, je n'ai que trois paroles à rappeler. Exode 20, 16. Il est écrit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je pourrais le dire autrement, tu ne mentiras point. Tu n'enroberas pas les choses pour tronquer, pour trahir la vérité, tu resteras dans la vérité. Tu ne mentiras point ou tu ne porteras pas de faux témoignages. Est-ce que pour vous le mensonge c'est grave ? Même pour la bonne cause ? Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 44. « Vous avez pour père le diable, et il le dit à des personnes qui sont en face de lui, il est menteur et le père du mensonge. » Certains disent « Oui, je mens, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour ne pas blesser, etc. » La Bible déclare que c'est la vérité qui affranchit et qui rend libre. Et que le père du mensonge, c'est le diable. Alors, je ne vais pas faire le sondage cet après-midi, mais on pourrait se poser la question. Qui n'a jamais menti ? Hein ? Tout le monde peut dire, moi, je suis coupable. Moi, j'ai menti. On est tous passés par là. Et on pourrait prendre bien d'autres choses que Dieu a conseillées. J'ai pris que trois paroles cet après-midi, mais cette deuxième nous dit que le mensonge, c'est quelque chose de grave. Le père du mensonge, c'est le diable. Je reprenais ça hier, j'étais avec des adolescents et je leur disais, mais vous savez, qui c'est le père du mensonge ? Ils m'ont dit, je ne sais pas. Et je dis, c'est le diable. Oh ! Ils se sont regardés, il y en a une qui a dit, t'as menti tout à l'heure. Et ils ont pris conscience tout à coup que le père du mensonge, c'est le diable. Et le diable, il est encore là, des milliers d'années après. Alors que Jésus parle de ces choses, il le dit, mais le père du mensonge, c'est le diable. Il a menti à Adam et Ève, il continue à mentir aux hommes pour les trahir, les tromper, il les pousse eux-mêmes à mentir. Et je pourrais nous poser la question cet après-midi, on veut qui comme père ? Est-ce que vous êtes de ceux qui récitaient le Notre Père, sans imaginer, sans réfléchir au fait que c'est vraiment ce que Dieu veut être, et le prix que ça lui a coûté, que d'accepter que Jésus-Christ meure à la croix pour qu'il puisse devenir notre Père et que nous devenions des enfants d'adoption ? Il y a deux personnes qui n'ont pas écouté ce conseil, cette parole. Vous connaissez leurs prénoms dans le livre des Actes ? Ananias et Saphira. Des personnes qui pourtant allaient à l'église, des personnes qui connaissaient l'évangile, qui connaissaient l'œuvre de Jésus à la croix, et à un moment de leur vie, ils se sont laissés gagner, piégés par le mensonge. Qu'est-ce qui se passe? Il est dit que dans l'Église, les gens avaient l'habitude de se soutenir, ou en tout cas plusieurs avaient eu à cœur de vendre des terrains, de donner l'argent pour que ceux qui en avaient besoin, qui manquaient d'argent, puissent être aidés et pour que la bonne nouvelle puisse être prêchée dans le monde entier. Quand ils entendent ça, ils se disent « on va faire pareil, mais nous on va en garder un petit peu hein. ». Ils vendent le champ, ils disent « je donne ça, on donne ça au Seigneur et puis ça on le garde pour nous ». Jusque-là, ce n'est pas grave, on est libre de faire ce qu'on veut avec notre argent, hein, heureusement. Il y a toujours le libre arbitre. Sauf qu'ils viennent devant Pierre, en tout cas Ananias, le mari, vient. Et qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Dans Actes chapitre 5, versets 1 à 11, il dit « voilà l'argent d'un champ qu'on a vendu ». Et Pierre, à qui le Saint-Esprit parle, à qui Dieu parle, lui pose la question « est-ce que c'est vraiment à ce prix-là que vous avez vendu le champ ?»« Oui, oui. » Mensonge. Et la conséquence du péché, la Bible nous dit que c'est la mort. Et Dieu, à ce moment-là, a permis que pour cette fois-ci, heureusement, sinon on serait tous morts puisqu'on a tous menti, que pour cette fois-ci, eh bien, il se passe quelque chose de très grave, d'horrible. Alors qu'il dit ça, oui, oui, c'est cela, à ce moment-là, il tombe par terre et il meurt. Je vous repose la question, c'est grave le mensonge ? Il tombe par terre et il meurt. Pour dire, oh, mais c'est dur pour un mensonge, quand même, ils étaient venus donner quelque chose. Il faut être sérieux avec la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Et quand on commence à dire des demi-vérités ou des choses comme ça, on s'éloigne déjà de la voix que Dieu nous donne, de ce qu'il nous dit et ce qu'on doit écouter dans sa parole, parce que Dieu nous aime. Et de la même manière qu'il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de ce fruit-là, car vous mourrez. Le péché, c'est grave dans notre vie. Et même si on appelle le péché qu'on a commis un péché mignon, ça n'existe pas, parce que le péché, c'est horrible. Ananias meurt. 3 heures plus tard, après qu'on l'ait pris, qu'on soit allé l'ensevelir, sa femme arrive, peut-être qu'elle s'est dit, tiens, il rentre pas, comment ça se fait, je vais aller voir ce qui se passe. Elle se dirige vers l'église, elle rentre, et puis au moment où elle rentre, Pierre lui pose la question, Saphira, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ ? Oui, oui, oui. Et là, Pierre pose la question, mais comment en êtes-vous arrivé à vous accorder pour mentir au Saint-Esprit, pour mentir à Dieu, pour tomber dans le piège du diable? Et il lui dit, ceux qui ont emmené ton mari vont t'emmener à toi aussi. Cette femme, elle tombe, elle meurt. Et quand les jeunes hommes qui sont allés enterrer le mari re-rentrent, ils voient la femme et ils recommencent. Le péché, ça n'a rien de beau. Le péché, ça n'a rien de bon. Et même le plus petit des mensonges est quelque chose de tellement grave que c'est un poison dans ton cœur, dans mon cœur, qui nous emmène tout droit vers la mort éternelle, qu'on peut appeler l'enfer. Et une troisième parole qui a été donné par Jésus, que l'on pourrait oublier aussi. Cette parole est dans Marc chapitre 5 et au verset 36, prenez-le avec moi, Marc 5, 36. On va commencer au verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » C'est ce que je voudrais nous rappeler. Une troisième parole, c'est « Ne crains pas, crois seulement. » Cet après-midi, on a besoin de se rappeler aussi de cette troisième parole. Toutes les paroles de Dieu, de Jésus, sont importantes parce qu'elles sont pour notre bien, pour notre salut. C'est notre Créateur qui parle. Et il dit, ne fais pas ça, touche pas à ça. Il y a la mort, il y a le piège derrière, il y a la destruction, il y a des foyers divisés, des foyers explosés, il y a tellement de mauvaises conséquences. Ne touche pas à ça. Mais aussi, n'aie pas peur, ne crains pas. Crois seulement. Honnêtement, j'aurais été un des disciples, j'aurais dit à Jésus, écoute, là c'est un peu trop tard. À œil humain, c'était trop tard. La fille de cet homme était morte. Elle était morte d'une maladie, de quelque chose, elle était morte. Sauf que Jésus a le pouvoir de redonner la vie à ce qui est mort et à celui qui est mort. Et Jésus va dire cette parole. Un peu plus tard dans le temps, un des disciples de Jésus, qui peut-être a entendu cette parole, va l'oublier. Ce disciple, c'est Pierre. À un moment donné, après avoir vu le miracle de la multiplication avec les milliers de personnes nourries à partir de quelques pains et quelques poissons, Jésus va dire à ses disciples, et vous pourriez le lire dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33, il dit à ses disciples, allez, il les oblige à monter dans la barque et à passer de l'autre bord. Les disciples commencent à ramer, Jésus dit, je reste là, je vais renvoyer la foule. Quand il renvoie la foule, Jésus va prier. Les disciples sont au milieu de la mer et voilà que le vent commence à souffler, ça commence à chahuter. Et tout à coup, Jésus décide de les rejoindre sur la mer. Et Jésus va faire quelque chose que j'ai essayé mais auquel je ne suis jamais arrivé, il va marcher sur l'eau. Jésus commence à marcher sur l'eau et à rejoindre les disciples au milieu de la mer alors qu'il y a ce vent qui est là. Vous y croyez ou pas? Il y en a qui y croient? Ça va? Oula, il y a des sceptiques là peut-être. Bon, mais c'est pas grave. Jésus, il marche, il y va. Et quand les disciples le voient, ils disent « Oh, c'est un fantôme !» Eux, ils ne comprennent pas, ils se disent « C'est pas possible, comme moi. » Je me dirais « C'est pas possible que quelqu'un marche sur l'eau. » Mais il y a Jésus qui arrive et il dit « Ce n'est que moi, ne craignez pas. » Et Pierre, qui est assez vaillant, je trouve courageux, il va dire « Si c'est toi, alors ordonne que je vienne. » Jésus répond un mot « Viens. » Et voilà que Pierre, courageux, enjambe la barque. Mon père, la première fois qu'il prêche l'évangile, il prêche ce texte et il dit « Pierre, après avoir engendré la barque, c'est bien enjamber la barque, hein. Il enjambe la barque, il commence à regarder si le sol est bien solide, il avance, il commence à marcher et avancer vers Jésus. » Je trouve ça extraordinaire. Que Pierre arrive à marcher sur l'eau. Moi, j'ai essayé à courir sur le bord de la piscine, impossible. Lui, il marche sur l'eau. Mais au bout d'un moment, à cause du vent, à cause de la mer et des houles, etc., qu'est-ce qui se passe? Il se met à s'enfoncer. Il oublie que peu importe le vent, la tempête, ce qu'il y a autour, s'il garde ses yeux fixés sur Jésus, s'il ne craint pas et qu'il choisit de croire en Jésus-Christ, même s'il vit quelque chose qui lui paraît impossible à surmonter ou impossible à faire, il est capable de marcher sur l'eau avec Jésus et de traverser la tempête et d'aller de l'autre bord comme cela. Il s'enfonce, Jésus lui dit « Pourquoi as-tu douté ?» Quand il crie « Sauve-moi, sauve-moi !» Il le tire et dit « Pourquoi as-tu douté ?» Et avec Jésus, Pierre est ramené dans la barque et il rentre. Trois paroles simplement, et vous allez me dire « Mais en quoi ça me concerne, Jérémie ?» La première, c'est « Mange pas de ce fruit-là. » On n'est plus dans le jardin d'Éden. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus tout magnifique, avec plein de fruits, avec tout ce qu'il faut, etc. en tout temps. Il y a eu depuis le péché, et il y a cette vérité, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et aujourd'hui, on le vit, on est dans un monde qui ne veut plus de Dieu, et du coup, qui gît sous la puissance du péché et du malin. Et il y a toujours cette parole qui est valable pour toi aujourd'hui. Ne mange pas du fruit du péché. Alors, quel fruit du péché? Moi, aujourd'hui, en 2020, quel est ce fruit dont je ne dois pas manger? C'est l'image, peut-être, de toute cette pollution sexuelle qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'on voit à la télévision, toute cette sensualité, toute cette mentalité du monde qui dit qu'il faut essayer avant de vivre ensemble, qu'il faut flirter, qu'il faut faire n'importe quoi, et tous ces mélanges et mélimélos, plus aucune règle, et avec toutes sortes de déboires et de péchés que la Bible dénonce. Mais aussi, peut-être, on pourrait parler de la violence. Toute cette violence qui est là, et pour défendre quelque chose qu'on croit être notre droit, on va être prêt à tout casser, à taper, à se battre avec les autres, à venir tout détruire. On est dans une période où il y a eu la plus grande grève que la France n'ait jamais vécue, quand même, la plus longue. On est dans un monde où les gens ils ne savent plus comment s'y prendre et ils s'y prennent de la mauvaise manière, ils tombent dans les pièges du diable. C'est à la force de nos poings qu'on va arriver à quelque chose. Et on mélange les choses et on n'arrive à rien de bon et on s'auto-détruit quelquefois. on pourrait penser à la magie. Ah, on va dire, il n'y a pas des magiciens comme dans certains pays, etc. Mais il y a quelques années, et je l'ai prêché lorsque j'étais stagiaire ici, il y a quelques années, et il y a moins de 30 ans, la France a validé le fait qu'il y ait des voyantes et des voyants, des magnétiseurs, alors qu'avant c'était interdit, il y a moins de 30 ans. C'était interdit, ça s'appelait des charlatans. C'était dans la loi. La loi a été changée pour valider et accepter ces choses, pour que tout le monde y ait accès, pour que tout le monde puisse faire son petit tarot, sa petite voyance, son astrologie, etc. Et maintenant, ça se démultiplie et démultiplie. Vous êtes allé dans les pharmacies et vous avez vu, comme moi peut-être, celui qui enlève le feu, etc., toutes sortes de magnétiseurs. Et c'est encouragé même dans les pharmacies. On vous propose ces choses, on vous donne les numéros de ces gens-là, avec tout ce qui se passe. Dernièrement, je prêchais au minime et puis à la fin, à l'appel, je parlais de Jésus qui est la lumière et du diable qui est les ténèbres et des démons qui sont là pour nous enténébrer. Et à la fin, j'ai une personne qui s'approche et qui dit « Priez pour moi parce que mes parents sont allés voir des voyants et ont demandé à ce qu'il puisse passer des choses sur moi et j'ai que des cauchemars, tout ça. » Et j'ai pu prier pour cette personne qui a été délivrée des démons qui étaient venus en elle. On y croit encore à cette affaire ou pas? La Bible en parle. La Bible dit qu'il y a ce combat entre ce que Dieu dit et ce que le diable dit. Ces mensonges dans lesquels il veut nous faire emmener. Ne touche pas au fruit de la magie. Peut-être que quelqu'un est tenté de toucher à ces choses-là. Peut-être quelqu'un y est déjà allé. Et il a comme la mort dans ses pensées, envie de se suicider. J'aimerais te dire que s'il y a la mort dans tes pensées, Jésus redonne la vie et peut te délivrer de ces choses-là. La deuxième parole que j'avais rappelée, c'est « Tu ne mentiras pas ». Peut-être que quelqu'un, pendant qu'on parlait d'Ananias et Saphira, pendant qu'on parlait du fait de ne pas faire de faux témoignages, peut-être que quelqu'un s'est senti concerné. Quelqu'un peut-être qui entend pour la première fois ces paroles, n'avait pas compris que le mensonge pouvait être grave à ce point-là. Je parlais de ces choses il y a quelques jours à l'église. Et j'en parlais dans un petit comité parce qu'on fait des études bibliques avec des petits groupes. Et pendant qu'on fait ces choses, pendant que je parle, je rappelle le fait que le mensonge, c'est quelque chose de grave. Et qu'il faut aimer la vérité. Et se débarrasser des mensonges, régler les mensonges qu'on a faits, parce qu'au moins on a la paix qui revient. Et c'est comme ça qu'on est débarrassé de la culpabilité. Et voilà que je reçois, en 2 semaines là, je reçois 2 textos. Différents. En premier, une personne qui me dit « Jérémy, il faut qu'on prenne rendez-vous parce que je voudrais te parler de quelque chose. » Et quand on a le rendez-vous, cette personne me dit « Écoute, Jérémy, tu vois, quand on a fait l'examen sur un petit contrôle à la fin de la leçon, j'ai triché. »« Ah bon, t'as triché ?» Elle me dit « Oui, j'ai triché. » Pendant la correction, j'ai vite corrigé mon truc pour avoir un point de plus. Je ne fais pas le sondage non plus, qui a triché déjà dans sa vie ? Ça a pu arriver, hein, à l'école, les jeunes. Ça vous est arrivé d'entendre ça, pas vous, mais vous avez vu ça chez les autres. Et cette sœur qui me dit, Jérémy, il faut que je le règle, alors je te dis, voilà, j'ai triché. Il faut qu'on corrige, enlève-moi s'il te plaît ce point. J'arrive plus à dormir depuis que ça s'est passé. Et moi, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Ah, c'est pas bien, hein, tu as pas compris. Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il faut faire? Pas du tout. Mais j'étais fou de joie et j'y ai dit « Ah, mais ça me fait plaisir, tu as eu le courage de venir dire ce que tu as fait. » Eh bien maintenant c'est réglé et ça me pousse encore à te faire confiance. Maintenant, que ça te serve de leçon, t'as vu, comme tu as pas dormi pour un truc bête, un point dans un petit examen en plus biblique. Comme tu es là, tu t'es gâché des nuits, débarrasse-toi du mensonge. Et c'est bien que tu l'aies fait. Et je veux t'encourager. Deuxième texto. Jérémy. Et là, c'était un texto direct. Je te demande pardon. Parce que quand on a parlé, eh bien, je t'ai dit telle chose, mais ce n'était pas vrai. Et elle me dit, je te demande pardon. Parce que je t'ai menti. Je n'ai aucune excuse. Et je veux te dire la vérité. Et j'ai fait la même réaction. Imaginez, alors on peut dire, oui, mais c'est un mensonge mignon. Tout mensonge. Et quelque chose qui te prive d'entrer dans le ciel. Et il te faut demander à celui qui a payé pour tes péchés, Jésus-Christ, de venir laver tes péchés. Et cette dernière parole, ne crains pas, alors qu'il y a peut-être la tempête, alors qu'il y a des difficultés, alors que ça souffle, c'est peut-être ta situation. Dans ta vie, il y a des choses qui soufflent fort, il y a une tempête qui est là, il y a des choses qui chahutent, c'est pas évident, tu essaies d'avancer, mais tu es en difficulté, tu n'y arrives pas. Et tu vois bien Jésus, une silhouette, mais tu sais pas possible qu'il m'aide, etc. Ou tu es dans cette confusion. Et Jésus, il peut te faire vivre des miracles. Seulement, au bout d'un moment, peut-être que tu as connu aussi la grâce de Dieu et un début d'aide du Seigneur ou un début d'action de Dieu dans ta vie, quelque chose de merveilleux, sauf que tu regardes encore au fait que ça souffle, au fait qu'il y a des vagues, au fait que ça chahute. Et j'aimerais que tu te rappelles cet après-midi cette parole de Jésus qu'il a dit à quelqu'un qui était devant sa fille morte, c'est pas rien. Peu importe si la chose paraît morte, peu importe si tu as l'impression d'avoir tout gâché peut-être, d'avoir tellement péché, d'avoir tellement trahi Dieu, d'avoir tellement trahi Jésus, alors que pourtant tu as vécu des choses. Peu importe. Jésus est là et dit, ne crains pas, crois seulement. Crois à quoi, Seigneur ? Elle est où la solution pour moi ? J'ai péché, je ne peux pas mériter le ciel. Et peut-être que quelqu'un parmi nous vit sous le poids de la culpabilité pour quelque chose qu'il a fait il y a des dizaines et des dizaines d'années et dont il n'arrive pas à se débarrasser. Là encore, en tant que pasteur, j'ai eu des personnes avec des entretiens où les personnes, ils étaient là, ça faisait 20 ans qu'il s'était passé quelque chose et ils n'arrivaient toujours pas à se sentir libérés de tout ça et ils culpabilisaient, ils se sentaient indignes et ils n'avaient pas l'assurance de leur salut. Il a fallu faire le point et de dire, mais est-ce que vous croyez au pardon ? Est-ce que vous croyez à la grâce de Dieu ? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a donné sa vie pour les péchés les plus horribles ? Est-ce que vous croyez, vous comprenez que si Jésus a dû mourir, c'est justement pour vous sauver de la mort ? Jésus n'a pas juste dû donner une offrande ou une somme d'argent pour payer pour nos péchés ou pour compenser, effacer nos fautes. Jésus a dû mourir. Et si la conséquence et le prix qu'il a payé est grave et lourd et horrible, c'est parce que nos péchés peuvent être graves, lourds et horribles. Et face au fardeau de nos péchés, il y a eu le sang versé de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Et ça, ça paye pour tous nos péchés, quels qu'ils soient. Alors oui, Dieu dit, ne touche pas à toutes ces choses qui sont là pour polluer ton cœur, pour le salir et pour t'empêcher d'aller dans le ciel. Ne touche pas à ce fruit-là, ne mange pas du fruit de ce monde que le monde te propose en te disant tout va aller bien, comme l'alcool, l'ivrognerie, les choses comme ça. Ou il te dit t'inquiète pas, c'est pour t'amuser, réjouis-toi. Peut-être parler plus aux jeunes et peut-être que dans votre situation, dans votre lycée, dans votre collège, dans vos copains, vos copines, il y en a qui vous diront viens, allez, viens avec nous, goûter aux fruits de la fête. Viens t'enivrer avec nous, réjouissons-nous, faisons la fête, on ne pense pas à demain, ce soir, on se lâche, comme ils disent les jeunes. Et le lendemain, oh la tête, j'ai mal. Oh mon ventre, j'ai envie de tout sortir. Oh l'odeur, oh les paroles dites, regrettées, oh les actes faits. Aux conséquences graves. Ne mange pas ce fruit-là. Mais si tu l'as fait, ne crains pas. Ne te dis pas, je ne mérite plus, de toute façon c'est trop tard maintenant, il n'y a plus rien pour moi. Jésus-Christ a payé pour tes péchés. Et il peut te pardonner si tu lui dis, Seigneur, vois mon péché, je t'avoue mes fautes, j'ai besoin de toi, sauve-moi, lave-moi de mon péché, comme on l'a si bien chanté. Peut-être que quelqu'un a menti, et dans le compromis et un mensonge en engendre un autre, et puis un autre, et puis un autre. Cet après-midi, je voudrais t'inviter à laisser Jésus briser cette chaîne, à laisser la vérité que tu entends et que tu écoutes briser ce cycle vicieux dans lequel tu es tombé, afin que tu puisses vraiment vivre cette libération que Jésus veut t'accorder et qu'il a acheté à prix cher pour toi, pour moi, pour tous ceux qui l'écoutent et qui croient en lui. Et je te rappelle, toi aussi ne crains pas, crois seulement. Tu as menti ? Si tu le peux, aie du courage. Va, avoue le mensonge, corrige, dis la vérité. Et tu verras comme tu vas dormir bien. Peut-être qu'il y aura des conséquences. Peut-être qu'il y aura certaines choses à assumer. Mais en tout cas, il y aura un fruit paisible de justice pour ta vie et un sommeil doux, celui du juste dont parle la Bible. Mon fils, je termine avec ce texte, sois attentif à mes paroles, prêche l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je le relis et je termine avec ça. Mon fils, et je peux dire ma fille, c'est pareil. On pourrait dire terre, terre, terre. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde la Bible sous tes yeux, lis-la. Préserve-la au fond de ton cœur, apprends-la, repasse-la. Et ça va être une source de bénédiction énorme pour toute ta vie, parce que quand ton cœur se laisse pénétrer par ces choses-là, il y a des sources de bénédiction qui jaillissent pour tout le reste de ta vie. Je répète le titre. Écoute, Dieu te parle.